ma mère les chantait parce qu'il s'agit d'un chant usuel.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur SILAB. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et c'est une journée qui est dédiée à une programmation spéciale lutte pour les droits des femmes pour la Journée internationale des droits de la femme. Donc, restez avec nous et je vous retrouve pour ma part pour l'émission numéro 2, deuxième édition de Djurdjura que j'avais déjà fait l'année dernière le 8 mars. Et donc là, on arrive pour un deuxième épisode dédié à l'histoire des chanteuses kabyles. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire de certaines d'entre elles. L'année dernière, on avait parlé de Tau Samrouch. Donc, j'espère. Et cet épisode est encore disponible si vous voulez l'écouter sur SILAB. Aujourd'hui, on va commencer par un film pour entrer dans cette histoire des musiques kabyles. Et par le personnage de Baya, qui est en fait le personnage du film La montagne de Baya. C'est un film qui a été réalisé par Azzedine Medour, un film d'expression kabyle qui est sorti en 1997. La musique de ce film a été réalisée par Djoula Abouda et le fameux compositeur Amin Kouider. Donc on va écouter un extrait de ce film, quelques extraits qui sont mis à la suite. Donc il y a un peu de bande-son du film. Et des morceaux qui ont été composés aussi pour la bande Voilà, donc des extraits de la bande originale du film, mais aussi une personne qui a repris la musique aujourd'hui, qui est en fait une réadaptation aussi contemporaine. La montagne de Baya, c'est un film qui est très important dans l'histoire du cinéma kabyle et qui va mettre en avant la musique de Djoula Abouda, que j'ai cité tout à l'heure, qui a participé à la... Enfin, qui fait partie de la bande originale. Et c'est une chanteuse, écrivaine et aussi cinéaste qui est née en Kabylie. Et elle a fait partie du fameux groupe de musique kabyle Djurdjura. Cette formation de 4 femmes s'est produite en France dans les années 80 et elle a permis de faire rayonner et de faire connaître la chanson kabyle à l'étranger. L'histoire du film La montagne de Baïa, c'est celle de la tragédie d'un village kabyle au début du XXe siècle, donc pendant la période coloniale, qui était marquée par une grande pauvreté et le départ de beaucoup de personnes pour le combat pour les guerres menées par la France. Et l'héroïne du village, l'héroïne du film se bat pour défendre son village, en fait, qui est détruit par les colons. Et en même temps, elle donne tout pour dépasser ses peines de cœur et raviver certains mythes ancestraux. Mais donc, ce film a été produit à la fin des années 90, et il évoque donc une période en Kabylie qui est celle du début du siècle, d'une manière un petit peu bucolique. Mais à cette époque, il y avait déjà des chanteuses et des musiciennes qui ont vraiment vécu cette période de l'histoire. Et c'est une période qu'on connaît parce qu'elle est marquée par l'avènement des techniques d'enregistrement et la radio dans cette région. En fait, avant les années 20, il y avait très peu d'enregistrements des musiques kabyles. Et avant ça, la musique kabyle était très peu connue, y compris en Algérie. Donc ça a commencé à changer avec les premiers enregistrements qui ont été réalisés par la société Gramophone. Donc les deux premiers chanteurs qui ont bénéficié de cela, c'était Simor et Sissaïd. Cette société, elle a participé donc au début de l'enregistrement des chansons kabyles, qui étaient très peu documentées jusqu'alors. Et la première femme qui serait enregistrée par cette société, c'est Fatouma Blidia, qui a chanté à la fois en kabyle et en arabe dans les années 20. Mais malheureusement, les enregistrements de cette époque, aujourd'hui, ils ne sont pas facilement accessibles ni facilement audibles. Donc je ne vais pas forcément vous en faire écouter dans cette émission. Et aussi, il faut noter qu'il y a un autre label, ou société d'enregistrement plutôt, qui s'appelle Algériaphone, qui a participé à l'enregistrement de ces musiques kabyles. Donc voilà, il faut attendre les années 20 pour que la chanson féminine kabyle commence à s'insérer vraiment dans la pratique d'enregistrement et devienne un peu reconnue avec des noms d'artistes discernables dans les milieux urbains. Et un des premiers noms, c'est celui de La Yamina. Donc je vais tout de suite faire écouter un son de cette chanteuse qui s'appelle Yesha Wul. Donc on vient d'écouter sur Syllab cette chanson de La Yamina et dans ce morceau, elle est accompagnée aussi de Na Sherifa et de La Zina qui sont d'autres chanteuses kabyles. Et donc en fait, cette chanteuse La Yamina, son vrai nom c'est Arab Ferouja et elle est une des premières chanteuses féminines kabyles. Et en fait, elle représente un petit peu un symbole de ces pionnières de la chanson kabyle parce qu'elle a plus ou moins bravé tous les carcans des traditions en vigueur à l'époque. pour chanter et dédier et faire une carrière musicale. Elle compte dans son répertoire environ 200 chansons. Donc beaucoup ont été reprises par la suite par d'autres chanteurs. Sa date de naissance serait 1905 ou 1906 dans la région de Agbou en Kabylie. Et très jeune, elle va émigrer à Alger et c'est là qu'elle va se consacrer aussi à la musique plus tard. La Yamina, c'est une chanteuse qui est connue aussi parce qu'elle faisait partie d'un trio de chanteuses kabyles qui a intégré la radio dans les années 20 plus ou moins par l'intermédiaire d'une certaine Madame Lafarge qui était institutrice et femme d'un commanditaire colon français. Et donc cette Madame Lafarge, elle a ouvert des émissions de radio et elle a participé à la visibilisation de chanteuses kabyles à la radio pendant la période coloniale, dans les années 20-30 jusqu'à les années 50. Et donc elle a donné de la place à ce trio qui est constitué de la Yamina, la Unissa et la Zina. Ces trois personnes vont animer des émissions de chant kabyle et au départ surtout des chants traditionnels dont on avait parlé de ça la dernière fois dans le premier épisode de Jojoja. Et donc c'est des chants qu'on appelle Ashwir, au pluriel Ishwiren. Donc la Yamina, dont on vient d'écouter un morceau, elle va ramener autour d'elle plusieurs autres femmes, donc ce trio, mais ensuite aussi par la suite d'autres grandes chanteuses kabyles comme Shrifa, Hnifa, Olida et d'autres. Donc elle est restée un peu cette figure de protection pour de nombreuses femmes. On dit d'elle qu'elle aidait les femmes en difficulté, qu'elle les accueillait chez elle, qu'elle organisait les répétitions dans sa propre maison, que sa porte était toujours ouverte. C'est un peu des récits qui restent autour d'elle aujourd'hui. Donc on va écouter un dernier morceau de La Yamina dans lequel elle joue seule. Concert de La Yamina qu'on vient d'écouter et dont je viens de parler, La Zina, elle est aussi enregistrée chez Gramophone, la société d'enregistrement. Et cette chanteuse a pour vrai nom Wardia Mahdawi et elle est aussi originaire de Kabylie. Elle faisait partie donc de l'entourage de La Yamina et elle était plus précisément son amie et sa voisine. Et c'était beaucoup comme ça que les groupes se sont constitués à cette époque et que les chorales de femmes sont mises en place, c'était des connaissances de la famille, du voisinage. Et donc, La Zina, elle a intégré ce trio. Donc, on écoute aussi un morceau de La Zina qui s'appelle Lala Yemma. Donc, on vient d'écouter un morceau de La Zina, et qui fait aussi donc partie des pionnières de la radio algérienne à sa création dans les années 20. Et elles ont constitué ce trio à trois, et elles se sont retrouvées là parce que pendant la période coloniale, une antenne a été installée à la capitale précisément à ce moment-là. Et elles ont été recrutées donc pour faire des essais de voix, d'abord sous la demande des autorités françaises et de Madame Lafarge, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui recherchait des troupes de chant traditionnels kabyles pour chanter à la radio. Et c'est La Ounissa qui a rassemblé autour d'elle La Yamina et La Zina. À ce moment-là, c'est elle qui était l'intermédiaire entre Madame Lafarge et les autres chanteuses kabyles qui ensuite ont été plus connues. Au début, c'était terrifiant pour ces chanteuses parce que c'était pas facile de chanter publiquement, c'était pas une pratique qui se faisait d'avoir une carrière artistique en tant que femme à cette époque-là. Et de sortir des espaces délimités du village et de la société traditionnelle, c'était dangereux et c'était mal vu. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont pris des noms sous lesquels on pouvait pas les reconnaître, donc c'est jamais leur vrai nom. Et à ce moment-là, elles se rendaient encore en cachette 2 fois par semaine à la radio. Et c'est là qu'elles ont commencé à chanter des chants traditionnels à l'antenne, qui parlaient des épreuves de la vie en général, et en particulier des épreuves de la femme et des carcans qu'elles subissent. Et en fait, elles ont eu très rapidement un grand succès auprès des auditeurs, ce qui a encouragé d'autres femmes à les rejoindre peu à peu. Et la plupart, c'était, comme je l'ai dit, des connaissances, des voisines, si bien que le groupe s'est élargi. Est devenue une véritable chorale qui s'appelle Ural Nkhalat, qui veut dire ou Nuba Nkhalat aussi, qui veut dire la chorale des femmes. Et c'est une émission qui a existé à la radio, la chaîne Radio 2. Donc voilà, c'est vrai que le rôle de la radio, il a été important dans la constitution de ces parcours de femmes artistes en Kabylie, et qu'elles vont vraiment commencer à exister au moment où la radio dédiée à un public algérien dans le contexte colonial se développe. Mais leur destin ne fut pas facile pour toutes. Beaucoup ont dû abandonner à cause de leur mari, de leur famille et des ennuis que représentait la chanson et leur pratique artistique par rapport à la société. Et donc beaucoup de parcours ont été avortés dans ce groupe de femmes. Si au début, les chants étaient des reprises, des chants villageois, des chants de fête, des chants traditionnels, peu à peu, ils ont évolué vers des chants qui étaient dédiés à raconter leur vie, leurs histoires, leur présent et leur vécu, se détachant en fait des formes traditionnelles de la chanson kabyle. Certaines d'entre elles se sont même lancées dans des parcours en solo. Beaucoup d'entre elles ont bénéficié de ce groupe pour ensuite avoir une carrière seule ou en duo avec des hommes. Parmi elles, il y a cette chanteuse très connue qui s'appelle Hanifa et qui a poursuivi une carrière solo et aussi en duo bien après. On va écouter un son de Hanifa tout de suite. « Donc on vient d'écouter un son de la chanteuse Hanifa. Son vrai nom est Zoubida et elle est née dans un milieu traditionnel aussi en Kabylie. Elle est la cadette de sa famille et l'histoire raconte que on lui a prédit dès son enfance un destin maudit de chanteuse. Et elle s'est mariée plusieurs fois durant sa jeunesse. Elle a été mariée en fait par sa famille et ça lui vaut d'être méprisée par son père. Et de vivre dans une grande pauvreté. Et c'est après ça qu'elle va rencontrer une autre chanteuse, Sherifa, qui en fait est sa voisine, et qui va lui proposer de participer à des enregistrements radio. Et comme je disais, c'est très difficile à l'époque d'être une femme artiste, c'est très mal vu, mais elle va prendre son courage et elle va se mettre à chanter à la radio. Et c'est là qu'elle va prendre le nom de Hanifa. Elle va intégrer la formation des chanteuses kabyles auprès de la Yamina, la Zina et la Ounissa plus tard, donc ce sera plutôt dans les années 40. Et ces chansons vont beaucoup aborder le thème de la souffrance, de l'abandon, de la peine que ressentent les femmes qui sont restées au village, délaissées par leurs maris et leurs frères, parce que c'est un phénomène assez important dans les années 40, où beaucoup d'hommes de Kabylie ont été mobilisés pour la guerre par le régime français. Donc il y a beaucoup de chansons chansons kabyles féminines qui parlent de ce désespoir causé par l'émigration de beaucoup d'hommes vers la France. Donc là, on a plongé un peu dans les débuts de la chanson kabyle, le début de l'enregistrement et de la chanson kabyle féminine et l'émergence de noms féminins, de noms d'artistes, en fait, qui n'existaient pas avant. C'était une culture qui était aussi une culture musicale qui existait, mais qui était beaucoup plus anonyme et qui se basait sur la transmission orale dans l'espace délimité, en fait, de la famille et du village. Et maintenant que il existe des chanteuses reconnues qui peuvent enregistrer des albums qui se produisent à la radio ou sur scène, on arrive après l'indépendance, dans les années 60, et on va découvrir la chanteuse Nuara. Donc elle, en 1963, donc vraiment au lendemain de l'indépendance, dans le cadre d'une émission où elle participe pour lire des textes, elle va être repérée par un autre chanteur amazir, poète et aussi compositeur, qui s'appelle Sherif Reddam. Et il va donc lui confier ensuite des textes à mettre en musique et à mettre en chanson. Nuara, elle est considérée donc comme une diva de la chanson kabyle. Elle a interprété les textes de plusieurs artistes. Mais sa collaboration qui l'a le plus marquée, qui l'a le plus propulsée vers le sommet, c'est celle qu'elle a eue avec Sherif Reddam. Donc on va écouter un duo de Nuara et Sherif Reddam tout de suite.
Thank you.
Donc, on vient d'écouter sur Syllab ce duo de Nouara et Sherif Reddam, un morceau que je trouve vraiment magnifique. Et je parle de Sherif Reddam aussi parce que, en fait, c'est le compositeur de la bande originale du film La colline oubliée, qui est un grand classique du cinéma kabyle. Et c'est un film qui a été réalisé par Abderrahman Bouguermo à partir du roman de Mouloud Mamri. Mouloud Mamri qui est un grand écrivain kabyle et qui a beaucoup milité pour la défense de la culture amazigh. Et ce film, il parle des tensions qui existent dans un village en Kabylie, qui est marqué par les ravages de la colonisation, la mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale, les traditions qui pèsent sur les personnages, la maladie. C'est un film qui est assez tragique, mais qui est magnifique. Et je voulais vous partager aussi un petit extrait de la bande originale du film La colline oubliée. D'écouter une composition donc de Sherif Reddam pour le film La colline oubliée sur Syllab. Donc Nouara, elle a beaucoup collaboré avec lui, mais elle a aussi enregistré nombreux autres morceaux en duo avec d'autres chanteurs kabyles, comme le fameux Matoub Lounès, qui est une figure très importante de l'identité culturelle kabyle. Il a beaucoup, c'est un chanteur qui est contestataire, militant, ce poète. Et donc, on va écouter un interview qu'a donné Nouara, dans lequel elle parle de sa relation avec Matou Blounès, que j'ai trouvé très, très mignon et que je voulais vous partager.
Moi, Matou, avant, je ne l'ai jamais connu. Mais en 92, il y avait une personne... il a été pour prendre son cachet. Il a travaillé au Majestic.
Ok.
Alors, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il y a Matou Blounès qui veut te parler. Il m'a parlé, c'était le mois de juin, je crois, ou le mois de juillet.
C'est en été.
Oui. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais que ça fait depuis des années que je cherche à parler avec toi. Et moi, je dis la vérité, Matou Blounès, j'écoute sa voix, mais... C'est un bonhomme que je n'ai jamais parlé avec lui, je ne le connaissais pas.
Il n'y a pas eu d'occasion.
Voilà, il n'y a pas eu d'occasion aussi. Parce que moi, je travaille à la radio. Et puis, quand je vais dans un gala, je pars au gala et je reviens. Quand toujours, c'est ma famille qui me prend, c'est ma famille qui me ramène et qui me ramène aussi. Et après, il m'a appelé. On se parlait au téléphone. Alors, comme il le dit, lui, c'est, j'ai 20 heures d'appel. 18 heures, c'était pour Nouara. On parlait matin et soir. Je ne sais pas, des fois, je me disais, qu'est-ce qu'on a raconté pendant une heure ou deux heures? Enchanté, il me disait ce qu'il faisait. Et puis, voilà, il m'a proposé de faire l'album avec lui. C'est une personne que, heureusement que je n'ai pas dit non.
Heureusement.
Je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté aussi de le connaître. Voilà, c'était un bonhomme qui aimait beaucoup la vie. Qu'il n'avait pas de chance aussi. Il n'a jamais eu de chance dans sa vie. Parce qu'il a été très... Non, je ne sais pas.
Trop sincère.
Il était trop sincère au point qu'il a tout perdu. Voilà. Et puis quand il aime une personne, il l'aime, je ne sais pas.
Il est entier. Il voilà. était entier. Mais justement, quand vous l'avez connu, ouais. Parce que là, on a ces étiquettes en Algérie, elles sont connues, extrémistes, berbéristes, on dirait, dès que tu revendiques ton identité, tu es perçu comme fasciste. Alors que lui, il était vraiment entier dans sa cause. Il était vraiment coréen dans sa cause. Peut-être même certains berbères, ils le voyaient comme extrémiste. Mais vous, quand vous l'avez découvert, vous avez découvert un autre Matou.
Exactement.
Complètement différent.
Complètement différent. Et moi, je vais vous dire une chose. Si on aime cette langue, moi, en 62, je ne parlais pas bien le kabyle. Je l'ai appris à la radio et merci beaucoup maman qui m'a appris le kabyle. Le kabyle, c'est dans le sang. Si j'apprends pas la langue de ma mère, quelle langue que je vais apprendre? Comment je vais parler? On me dit, Nouara, tu es d'où? Je suis d'Azazga, je suis algérienne. Moi, je ne peux pas dire que je suis venue de tel ou tel... Hein? Alors le kabyle, il doit rester kabyle, c'est tout.
Et donc, au-delà de cette grande collaboration qu'elle a eu avec Matou Blounès, Nouara, elle a aussi réalisé des projets seuls, comme un album qui s'intitule « La femme kabyle et ses problèmes ». Et c'est un album qui comporte uniquement des pépites. Je vais vous passer un morceau de cet album qui s'appelle « Teshinam », qui veut dire « vous chantez ». Et c'est un morceau qui évoque les problèmes d'une société où l'ordre ancien a déjà disparu, mais l'ordre nouveau n'est pas non plus totalement installé et les femmes se sentent toujours au cœur de ces crispations sociales. Et c'est en fait une grande complainte sur le sort de la femme qu'elle tient ici, qu'elle considère comme l'éternelle perdante au jeu de la vie et de l'amour. Donc on va écouter ce son Teshinam tout de suite. Thank you. Donc, on vient d'écouter le son Teshnam de Noara sur Syllab. On est le 8 mars, journée spéciale programmation pour la journée de la lutte pour les droits de la femme. Et donc, c'est ce morceau de Noara. Il est particulièrement triste. Elle dit dans ses paroles... Vous étiez triste quand je suis née, vous avez chanté ma beauté sans considérer ma dignité. Vous m'exploitez, vous exploitez ma beauté, ma réputation et ma liberté. Et en fait, durant le morceau, elle demande carrément justice. Elle réclame le droit d'avoir une vie digne. Elle demande qu'on arrête de l'accabler de malheur. Elle dit « Nul ne s'est souvenu de mes droits et je suis considérée comme du bétail ». Donc vraiment, c'est une complainte et bon, le titre de l'album le montre bien. Et il y a d'autres morceaux dans cet album dans lesquels elle va chanter ses peines, son cœur brisé. Aussi, c'est beaucoup des chagrins d'amour. Comme ce son qui dit « Sit ich jezran » qui veut dire « l'œil qui t'a vu », dans lequel elle dit « Tu es loin de ma vue, mais mon cœur ne cesse pas de te voir ».
Thank you.
vient d'écouter ce son, Titik Yezren, de Nuara. En fait, je pense qu'on devrait écouter l'entièreté de cet album parce que tous les sons sont trop beaux. Mais je vais vous laisser sur un dernier son de cet album qui s'appelle Sir Al-Mazvah, donc de cet album qui s'appelle La femme kabyle et ses problèmes. Et ce sera le dernier son de cette émission de cette année. J'espère que ça vous aura plu et je vous recommande de rester sur l'antenne de Syllab en cette journée du 8 mars parce qu'il y aura beaucoup de belles choses qui seront proposées. Donc on écoute tout de suite ce son et à très bientôt.
Hiçbir mi ne kedi? Oh, let's shine.